Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1, Nadia et Tayeb au micro. Elle était la voix et le visage de la Palestine. Laila Shehid s'est éteinte le 18 février 2026 à l'âge de 76 ans. L'ancienne diplomate palestinienne avait représenté son pays en France à partir de 1993, puis à Bruxelles auprès de l'Union européenne de 2006 à 2015. Elle était née en 1949 à Beyrouth, où la famille de sa mère, engagée dans la lutte contre l'occupation britannique, avait été exilée. Et ce n'est qu'en 1994, après les accords d'Oslo, que Laila Shehid a pu rentrer dans les territoires palestiniens. Sa détermination souriante, son érudition tranquille, son refus de la haine ont forcé l'admiration de tous ses interlocuteurs. Elle fut la première à pénétrer en compagnie de l'écrivain Jean Genet dans les camps de Sabra et Shatila, soumis à un massacre de masse en 1982. La visite des camps jonchés de cadavres inspirera à Genet son magnifique texte « 4 heures à Shatila ». Et quelques années plus tard, en 1987, Laila Shehid commencera à publier dans la Revue d'études palestiniennes. C'est 11 ans plus tard, en 1983, qu'elle participe aux accords d'Oslo aux côtés de Yasser Arafat, accord dont elle mesurait toutes les limites pour le peuple palestinien. En 2005, Laila Shehid fait publier en français aux éditions Fayard les mémoires de sa mère, Sirine Husseini Shehid. Avant, nous disait-elle, que la mémoire atteinte par la maladie ne s'efface, tout un symbole. Le livre préfacé par Edouard Saïd, qui le qualifie de trésor historique et humain, brosse à travers des images intimistes le portrait de tout un peuple et de son déchirement. Car Sirine Husseini Shehid ne se contente pas du récit de classes privilégiées et cultivées qui ont subi l'exode. Elle parle pour tous les Palestiniens dont elle rappelle l'histoire longue, celle d'une culture, d'un rapport à la terre ancestrale, d'un œcuménisme universel réel, trop souvent occulté. Laila Shehid était à mon micro sur Aligre FM 93.1. En 2005, nous vous proposons de réécouter cet entretien pour lui rendre hommage.
Oui, je vais surtout dire pourquoi je suis passée de porte-parole du président Arafat à porte-parole de ma mère. Premièrement, parce que ma mère, malheureusement, depuis qu'elle a écrit ce beau livre, a eu la maladie d'Alzheimer et que donc elle a littéralement perdu la mémoire. Elle ne se rappelle même pas de ses propres enfants. Et c'est très émouvant pour moi qu'au moment où elle perd sa mémoire, un livre qui raconte sa mémoire, qu'elle a écrit pour raconter la mémoire de la ville de Jérusalem, sort en français. Elle l'a écrit il y a quelques années, elle l'a publié en anglais, elle l'a écrit dans une langue qui s'adresse aux lecteurs du monde, parce qu'elle veut avant tout parler de Jérusalem, de cette ville qui a été une ville de coexistence, une ville cosmopolite qui ne l'est malheureusement plus parce qu'elle est aujourd'hui une ville occupée. Et c'est parce que ce livre me touche beaucoup que j'en parle beaucoup, parce qu'elle ne peut pas en parler elle-même, parce que l'éditeur ne pouvait pas se retrouver tout seul avec un livre qu'il a tenu à publier parce qu'il l'a aimé, comme si elle avait prévu que lorsqu'elle ne pourra plus parler elle-même, elle ne pourra plus se souvenir elle-même, le livre portera ses souvenirs et sa parole.
Et portera aussi, on peut dire, le souvenir et la parole de tout un peuple à travers elle.
Oui, le peuple de Jérusalem, parce que Jérusalem est une ville qui aujourd'hui est peut-être celle qui vit l'offensive la plus terrible de l'armée israélienne, à cause du mur, à cause de l'occupation. Et c'est important qu'on parle de Jérusalem.
Oui. On sent tout au long des souvenirs de votre mère deux histoires, une histoire individuelle qui rencontre les soubresauts, le fracas de l'histoire palestinienne brisée par une date fatidique, 1948 puis 1967. Et donc c'est à la fois très anecdotique, donc très émouvant, et en même temps chaque chapitre pratiquement s'achève sur une espèce de projection dans le futur qui est finalement une projection dans notre présent, c'est-à-dire dans une Palestine qui n'existe plus. Par exemple, avec l'évocation de lieux comme Jérusalem, la maison de Jérusalem, la maison dans laquelle votre maman a grandi et où elle est retournée, je crois.
Oui, tout à fait. Parce que Ma mère est née en 1920 à Jérusalem. Elle a dû partir en 1936 parce que son père a été arrêté par les Britanniques, déporté. Et donc, elle et sa mère et ses sœurs étaient donc déportés eux-mêmes sans être dans une prison comme mon grand-père. Mais ils devaient quitter donc la Palestine et aller vers des pays à mandat français puisque c'était à l'époque les Britanniques qui les recherchaient. Et donc, ils ont été au Liban où elle a rencontré mon père, elle s'est mariée, elle s'est installée. Elle y est toujours d'ailleurs. Et c'est comme ça que nous sommes, moi et mes sœurs, nées au Liban. Et vers les années 78, elle a pu avoir ce qu'on appelle chez les Palestiniens les réunions de famille. Ça veut dire qu'on lui a accordé un permis. Les autorités israéliennes lui ont accordé un permis qui lui permet de revenir visiter la Palestine, visiter Jérusalem où elle est née. Et donc, elle revient justement dans cette maison où elle est née, qu'elle n'avait plus vue depuis 1936 et qui, en 1948, a été occupée par des familles israéliennes qu'on a installées là. Et donc, le livre aussi raconte principalement la vie de Jérusalem de 1920 à 1936, dans une famille typique comme la famille de ma mère, avec, comme vous dites, des petites histoires de familles normales, qui pourraient être des familles turques ou grecques ou syriennes ou autres. C'est beau parce que ça rappelle aussi que les Palestiniens sont des êtres normaux qui ont des beaux souvenirs, un attachement à la terre, à la campagne, au village, aux jeux d'enfants. Et puis, il y a bien sûr la tragédie du départ en 1936, la disparition de la maison familiale de la ville de Jérusalem, parce que elle, la ville où elle est née, c'est Jérusalem-Ouest, qui a été justement occupée en 1948 et qu'elle ne revoit plus jusqu'à son retour en 1978, 30 ans plus tard, pour découvrir aussi une maison qui n'est plus la sienne puisqu'elle est habitée par des familles israéliennes. Mais ce qui est beau, c'est que malgré toutes ces tragédies, je trouve qu'elle est arrivée à parler de tout ça sans haine, sans amertume, avec une forme de confiance dans la vie, dans l'avenir des Palestiniens qui vient de quelque chose qui est très intérieur. Parce que c'est vrai que sur le plan objectif, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Mais elle l'est. Quelque part, elle a le sentiment que les Palestiniens ayant survécu à tout ça continueront à vivre et un jour vivront dans leur propre pays.
Anecdote avec comme toile de fond une Jérusalem très cosmopolite, oui, un quartier russe.
Oui, Jérusalem est une ville sainte. C'est la ville sainte du monde. Si on l'appelle Terra Santa, en italien, on l'appelle Terra Santa. Elle est sainte pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Et chez les chrétiens, toutes les confessions. Donc, vous avez les Russes grecs orthodoxes qui ont leur mission. Vous avez les protestants allemands. Vous avez les bonnes sœurs italiennes. Ma grand-mère a été chez les bonnes sœurs italiennes. Il y a les catholiques français, les franciscains, qui sont là avec beaucoup de couvents, beaucoup de missions. Et donc, vous voyez, il y a, avec une terre sainte toujours, et la présence, parce qu'il faut comprendre que les couvents et les missions religieuses, c'est aussi des écoles, c'est des dispensaires, c'est des activités aussi sociales, et donc une petite communauté. Donc on les appelle d'ailleurs la mission protestante américaine, la mission allemande, la mission italienne, et autour du couvent, il y a toute une vie sociale avec aussi des écoles qui enseignent la langue, et donc un peu des microcosmes de différentes nationalités qui fait de la ville une ville très cosmopolite et de coexistence. Pendant toute la période de l'Empire ottoman, cette ville a été ouverte à toutes les cultures. il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, ça veut dire une revendication exclusive d'une partie. Aujourd'hui, il y a une revendication exclusive israélienne, je dirais même juive israélienne.
Oui, qui se traduit très concrètement sur le terrain par un grignotage systématique.
Tout à fait, et par la construction de colonies où ne peuvent habiter que des citoyens juifs israéliens.
Et au détriment d'un patrimoine important.
Je dirais même au détriment de la destruction de la beauté de la ville. La ville de Jérusalem est magnifique. Parce qu'elle est une ville entourée d'une enceinte, d'un mur qui a 1000 ans d'âge. Il y a à l'intérieur de la ville des vestiges qui ont 2000 ans d'âge, 1500 ans d'âge. La ville Mamelouk est magnifique, mais il y a aussi des vestiges romains, il y a des vestiges du temple, il y a tout. Et aujourd'hui, la construction de ces colonies en architecture, je dirais, qui ressemble plus à des bunkers qu'à des vraies maisons, en ciment, sans fenêtres, sans arbres, et qui font comme un cercle autour de la ville, étouffent la ville. Même les citoyens israéliens devraient défendre la beauté de la ville, parce qu'en la défigurant, on ne rend pas non plus service au peuple israélien.
On se heurte donc, métaphoriquement parlant et sur le terrain, à un mur qui transforme...
C'est le cas de le dire, c'est parce qu'aujourd'hui, le mur, c'est un vrai mur qui transforme de ciment de 9 mètres d'eau.
Oui. Qui transforme cette ville en une véritable prison à ciel ouvert, un nouveau mur de la honte qui devrait interpeller.
Tout à fait. Un mur qui, dans certains quartiers de Jérusalem, est à pratiquement 5 mètres des fenêtres des habitants palestiniens, qui se retrouvent avec leur domicile d'un côté du mur et leur commerce ou leur école de l'autre côté du mur. Ne pouvant pas traverser, puisqu'il y a aujourd'hui un mur de 9 mètres d'eau, et étant obligés de faire quelquefois 12 à 13 kilomètres de chemin pour revenir à leur commerce ou à leur école qui est à 10 mètres en face de leur maison.
La terre est au cœur de la littérature palestinienne et on le comprend. Et on a été frappé en lisant votre ouvrage d'une anecdote qui a l'air toute simple mais qui a une forte portée symbolique puisque votre mère, quand elle était petite fille, comme certains enfants en manque de calcium, avait pour coutume de manger de la terre.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'elle manquait de calcium. Deuxièmement, instinctivement, les enfants, je crois, lorsqu'ils ont cette carence de calcium, vont vers tout ce qui peut leur redonner un peu de calcium. Et c'est la maîtresse qui remarquait que lorsqu'elle était en train de jouer avec les enfants, elle essayait de voler de la terre qu'elle cachait sous son petit chapeau de paille pour après les manger toute seule le soir. Et elle s'est fait gronder. Une belle histoire qui raconte comment elle s'est fait gronder et punir. et dans la classe où elle était punie, elle grattait la chaux qui était sur le mur, puisque le mur était blanchi à la chaux, parce qu'elle avait besoin de manger. Il a fallu du temps pour que ses parents comprennent qu'en fait, c'était le calcium qu'elle recherchait. Et après, il lui pilait la coquille de l'œuf bouillie, parce que ça remplaçait le calcium qu'on prend aujourd'hui en pilule. Mais c'est vrai que dans la littérature palestinienne, la terre, qui est d'ailleurs le cœur de la cause palestinienne, parce que finalement, la bagarre, le conflit entre nous et les Israéliens, c'est sur cette terre. Est-ce que nous arriverons à vivre ensemble, à la partager, à l'aimer ensemble? Ou est-ce qu'il faut qu'elle soit exclusive à l'un d'eux? Moi, je pense que les Palestiniens ont montré une preuve de très grande maturité, de dire qu'on peut vivre ensemble sur cette terre. C'est un peu ce que dit Darwish dans tous ses poèmes. Les Israéliens ont le sentiment qu'elle doit être uniquement à eux, ce qui, à mon avis, est un non-sens pour tous les peuples du monde. Et je crois que peut-être Darwish a été l'homme qui a chanté cette terre avec le plus d'humanisme, le plus de désir de partage, la plus profonde conviction que la terre appartient à tous les hommes et les femmes qui vivent sur la planète et que s'accaparer en exclusivité une terre, c'est tomber dans quelque chose qui peut devenir, sur le plan du nationalisme, un chauvinisme très dangereux.
Je me souviens, en vous écoutant, et je pense souvent à lui, à Hamadi Hassid, que je crois que vous avez connu.
Oui, qui était un remarquable ambassadeur du monde arabe et qui est mort tellement jeune que j'ai très bien connu.
Qui disait que dans le culturel, et chaque fois qu'il a été dans le domaine culturel, et il a beaucoup travaillé pour le cinéma notamment, il avait le sentiment d'être éminemment dans le politique.
Hamadi Hassid avait cette qualité extraordinaire, comme Mahmoud Darwish d'ailleurs, d'être un homme qui est très politique et très culturel. Dans le monde arabe, on souffre, je pense, d'une forme de déformation du politique en pensant que c'est seulement de l'idéologique ou de l'événementiel. On ne réalise pas qu'on ne peut pas séparer le culturel du politique parce que, surtout dans une question comme la nôtre, comme la palestinienne, le politique étant identitaire, on ne peut pas lui enlever la dimension culturelle. Je pense que c'est pareil aussi pour les Israéliens. Et finalement, je pense que le discours le plus touchant pour le monde, c'est avant tout le discours culturel politique. Ça veut dire celui qui parle réellement, surtout sur la Palestine. Je pense que les écrivains, les cinéastes, les musiciens, les peintres touchent beaucoup plus le cœur du public que le discours politique, même si bien sûr le discours politique est nécessaire et on ne peut pas l'éviter. Mais je crois que celui qui parle réellement de l'âme des Palestiniens, de leur quête la plus profonde, de leurs rêves et de leurs cauchemars, de leur espérance et de leur déception, c'est avant tout la poésie, la littérature, le cinéma, c'est sûr.
La figure du Palestinien s'impose de plus en plus dans le cinéma, dans la littérature.
Oui, le cinéma dans les dernières années, le cinéma fait par les Palestiniens, mais aussi le cinéma fait sur la Palestine par beaucoup de cinéastes israéliens très courageux qui se sont intéressés
comme
à la Palestine.
Comme Eyal Sivan, par exemple.
Je pense à Eyal Sivan, je parle à Simone Bitton. Oui. Mais aussi le cinéma fait par les Palestiniens, toute une nouvelle génération de jeunes cinéastes. On a vu Elia Souleymane et le succès qu'il a remporté avec Intervention Divine, Rachid Macharawi, Michel Khlife, Hani Abou Assad. Il y a énormément, et toute une jeune génération de Palestiniens encore plus jeunes qui ont 25 et 30 ans et qui font du court-métrage, du moyen-métrage. Je pense que le cinéma va devenir de plus en plus un moyen, aussi chez les Israéliens d'ailleurs, avec beaucoup de films. On a vu récemment beaucoup de très bons films israéliens qui racontent un aspect de la société israélienne qu'on ne retrouve pas du tout d'ailleurs dans le discours politique. Je pense aussi que c'est très important de refuser l'idée que les civilisations seraient en confrontation et en conflit. Et c'est très important de refuser ce discours qui vient bien sûr des réseaux de Ben Laden. Mais malheureusement, lorsqu'on entend le président Bush répondre, il répond un peu comme Ben Laden à l'envers.
Oui, il y a une
curieuse
symétrie.
En disant que c'est l'axe du mal contre l'axe du bien, c'est la civilisation de la barbarie contre la civilisation des Lumières. Et je pense qu'il est très important de revenir vers un dialogue des cultures pour montrer finalement que nous appartenons tous à une culture qui a bien sûr des racines variées et différentes, mais qui finalement s'est beaucoup enrichie et s'est entremêlée au long des siècles. Et qu'en tout cas, il ne faut surtout pas donner au réseau terroriste de Ben Laden le privilège de représenter ni une civilisation ni une culture, et sûrement pas l'islam.
Aligre FM 93.1. Hommage à Leïla Shahid.
Engagée dès 1969 aux côtés de Yasser Arafat, Leïla Shahid est déléguée de la Palestine en France depuis 1994. Elle évoque ici l'éducation reçue par sa mère, auteur d'un livre intitulé « Souvenirs de Jérusalem » et publié aux éditions Fayard. Il est aussi question de l'enjeu politique que représente cette ville dans le conflit israélo-palestinien.
Chez les Palestiniens, comme je disais, c'est une terre sainte, il y a eu très tôt une présence, je dirais, très diversifiée d'écoles privées, mais qui étaient accessibles à tout le monde et qui ont permis aux filles, aux garçons d'être scolarisés très tôt. Bien sûr, je dirais que c'était plus vrai pour les villes que pour la campagne. Mais dans les villes, et la Palestine est avant tout une société citadine, avec des grandes villes comme Haïfa, comme Jaffa, comme Hébron, comme Jérusalem, comme Ramallah. Dans toutes ces villes, il y a eu des écoles depuis la fin du 19e. Je pense que dans la génération de ma mère, il y avait énormément de scolarisation de filles et de garçons derrière toutes ces écoles. Elle a commencé par aller à l'école musulmane qui était à l'intérieur du Haram Sharif, de l'esplanade des mosquées. Après, elle est passée de cette école à l'école protestante des Friends à Ramallah, qui était donc une école d'une mission laïque protestante, elle et ses sœurs, parce qu'il fallait qu'elles soient pensionnaires. Et là, donc, il y avait un pensionnat. Et puis, de là-bas, elle a été à l'université américaine à Beyrouth. Mais c'est vrai qu'en Palestine, peut-être plus que dans d'autres pays arabes avoisinants, la scolarisation des filles et des garçons a commencé au début du siècle. Je pense aussi à cause de tous les faits, je dirais, émancipateurs des missions chrétiennes. Et je crois que la société musulmane palestinienne ne s'est jamais sentie menacée par la présence des missions, parce que ces missions venaient avec des projets socio-économiques, n'étaient pas seulement là pour christianiser de force. Ils ne cherchaient pas à christianiser, d'ailleurs. Sinon, les familles musulmanes n'auraient pas envoyé leurs enfants dans ces écoles. Et comme c'était vraiment surtout une tentative d'éduquer, d'apprendre les langues, de faire apprendre les matières qu'on enseigne dans les écoles européennes aussi, elles ont été très vite des écoles où les familles musulmanes envoyaient aussi leurs enfants. Et je crois que c'est une caractéristique de la société palestinienne jusqu'à aujourd'hui. L'éducation est une part très, très importante dans le legs des parents aux enfants. Peut-être que c'est là où les parents sont le plus prêts à investir sur le plan financier. Vous avez aujourd'hui, par exemple, sur le plan du pourcentage des diplômés universitaires palestiniens, le plus haut taux dans le monde arabe par rapport à la taille de la population. Comme diplômés universitaires, comme étudiants qui ont été jusqu'au diplôme universitaire, le taux chez les Palestiniens est le plus élevé du monde arabe. Et je crois que c'est aussi, ça a été renforcé par la disparition de la terre, parce que dans une société paysanne comme la nôtre, traditionnellement, on donne en héritage un lopin de terre, des arbres, des oliviers, des amandiers, des arbres fruitiers. Et lorsque la terre a disparu, les familles avaient l'impression qu'elles n'avaient plus rien à léguer à part un diplôme, parce que le diplôme permettait aux Palestiniens de recommencer à vivre, à travailler, à reconstruire une sécurité économique et sociale dans n'importe quel pays où ils trouvaient refuge. Et donc, je crois que cette vérité qui était en Palestine, surtout due au fait que c'était une terre sainte avec beaucoup de possibilités aussi de trouver des écoles, est devenue après aussi un outil de résistance contre la disparition de leur identité.
Donc, on a compris que l'éducation était au cœur de la question palestinienne, de la politique palestinienne jusqu'à aujourd'hui. De quelle structure dispose-t-on sur place pour assurer cette éducation?
Il faut reconnaître aux Nations Unies un mérite immense. C'est comme 1948, lorsque les réfugiés, ça veut dire à l'époque 95% de la population, 750 000 Palestiniens ont été expulsés de Palestine en 1948. Ils sont devenus des réfugiés qui ont trouvé refuge au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte. Les Nations Unies, pour la première fois dans leur histoire, ont fondé une agence spécifique pour les Palestiniens. Elle s'appelle l'UNRWA, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Toutes les autres instances des Nations Unies sont pour les réfugiés, pour les ouvriers, pour les travailleurs, pour les enfants, mais pas pour un seul pays. La taille de la tragédie des réfugiés palestiniens était tellement grande qu'il a fallu un organisme des Nations Unies spécifiquement pour eux. Eux assurent donc la gestion des camps de réfugiés où on a installé les réfugiés parce qu'on pensait qu'ils allaient pouvoir rentrer chez eux comme la résolution des Nations Unies le disait. Mais aussi, ils assurent l'éducation et la santé. Or, dans l'éducation, ils ont dans tous les camps, eux, les Nations Unies ont la responsabilité de toutes les écoles primaires et secondaires jusqu'au bac. Et ces écoles sont mixtes, elles sont obligatoires. Ce qui fait qu'on a scolarisé, le taux d'analphabétisme, c'est les Palestiniens, c'est peut-être 2%, 3%, c'est rien du tout. L'alphabétisation atteint 97%, ce qui est un taux peut-être le plus élevé du monde arabe. C'est aussi en partie grâce aux Nations Unies. Pour ce qui est des camps de réfugiés, dans les villes et dans les villages, il y a bien sûr les écoles publiques aujourd'hui, mais elles n'existent que depuis 1994, depuis Oslo, puisqu'avant, le système scolaire était sous occupation militaire. Il a été à Gaza pendant une certaine période sous l'administration égyptienne, en Cisjordanie sous l'administration jordanienne, et seulement depuis 1994, il est sous la responsabilité de l'autorité palestinienne, avec, je dirais, d'après ce que disent les donateurs, une performance très remarquable. C'est vrai que nous sommes très fiers du ministère de l'Éducation et que les manuels scolaires ne sont pas du tout des manuels ni d'incitation à la haine ni au racisme, au contraire. Mais c'est vrai que nous sommes en train d'avancer pas à pas parce que c'est la première fois que nous faisons des manuels qui sont spécifiquement rédigés par les Palestiniens pour les enfants palestiniens. Mais je pense que l'éducation est un des secteurs qui avance le mieux en Palestine et où il y a entre l'autorité et la population une très grande osmose et une très grande entente sur l'importance de l'éducation.
C'est aussi l'enjeu d'un combat, je crois, parce que je repense à une scène du voyage en Palestine des écrivains du Parlement et qui vont à la rencontre de Mahmoud Darwish, donc qui ne peut pas quitter le territoire. On voit à un moment les écrivains médusés par les difficultés que rencontrent les jeunes Palestiniens pour se rendre à l'université à cause des checkpoints.
Premièrement, il y a aujourd'hui 8 universités, ce qui est presque trop pour un territoire aussi petit. Nous sommes 3,5 millions de Palestiniens en Palestine. 8 universités, ça fait beaucoup pour une population de 3,5 millions. Mais il y a une telle volonté justement d'avoir des études avancées, comme c'est très difficile de circuler parce qu'il y a 730 barrages militaires dans un territoire qui fait 5600 km en Cisjordanie et 356 km à Gaza. Ce qui veut dire qu'il y a tous les 2 km, il y a un barrage. Ces barrages empêchent les gens de passer. Donc les gens sont obligés d'essayer d'aller à l'université la plus proche, à l'école la plus proche, à l'hôpital le plus proche. Et donc, c'est vrai que lorsque nous avons été avec la délégation du Parlement international des écrivains qui était présidée par regretté Jacques Derrida, avec des écrivains comme
Saramago
et Soyinka et Breitenbach et Goethe Solo, ils étaient ébahis de voir qu'il a fallu s'arrêter à un barrage militaire, descendre des autobus, marcher, voir que l'armée avait coupé la route, avait fait une tranchée dans la route qui mène de Ramallah à Birzeit, qui est une route qui fait à peine 5 km, pour empêcher les voitures de traverser. Si la voiture insiste, elle tombe dans la tranchée qu'ils ont construite. Mais nous avons traversé à pied avec tous ces écrivains pour qu'ils voient la difficulté que les 4-5 000 étudiants de Birzeit ont, et tous les professeurs, parce que les professeurs qui viennent de Ramallah ou de Jérusalem, qui ont besoin de faire tout ce chemin aussi à pied. Mais ils le faisaient à pied. C'était une forme de résistance. Le combat pour l'éducation est une forme de résistance de l'intifada. Et c'est vrai que ça a beaucoup impressionné les écrivains de voir que, malgré les difficultés, les gens, les enseignants et les étudiants continuaient à faire ce trajet tous les jours.
Un défi quotidien pour avoir accès au savoir, malgré les
pour
murs.
Pour moi, ça, c'est le vrai sens de l'intifada. Malheureusement, à la télévision, dans les médias, on montre l'intifada uniquement comme une question de jet de pierre ou d'affrontement violent. Mais pour la population, l'intifada, c'est avant tout cette résistance quotidienne d'aller travailler, d'aller étudier, de continuer à écrire, de continuer à organiser une vie sociale. Ça veut dire de ne pas se laisser complètement écraser, de relever le défi de l'humiliation en créant de la vie.
Aligre FM 93.1, hommage à Leila Shahid, décédée le 18 février dernier. Vous écoutez la rediffusion d'un entretien accordé en 2005 à l'occasion de la sortie des souvenirs de Jérusalem de sa mère, Shirin Hosseini Shahid.
J'ai toujours noté une double attitude. Madame Shahid, du Palestinien dehors la Palestine historique, notamment en Syrie, au Liban. D'une part, leur espoir très, très fort, très radical de retourner en Palestine. De l'autre part, ils expriment leur volonté et leur nécessité aussi de s'intégrer socialement, politiquement, aussi dans les pays d'accueil. Ma question est-ce qu'il s'agit d'un mythe, ce retour en Palestine? Est-ce qu'il s'agit d'un mythe, d'un quelque chose qu'il vous paraît encore réalisable sur le plan politique concret?
Je ne pense pas du tout que ce soit un mythe. Je pense que c'est l'élément fondateur de l'identité palestinienne. Vous savez, je crois que l'essence de la question palestinienne, c'est avant tout littéralement l'engloutissement de la Palestine sous Israël et la dépossession des Palestiniens de leurs terres. Ça veut dire leur transformation en réfugiés. Il n'y a pas d'autre exemple au monde où 95% d'une population qu'on reconnaît comme un peuple a complètement perdu sa présence sur sa terre. Il y a eu dans les mythes l'Atlantide, cette terre qui s'est engloutie dans la mer. Mais ce n'était pas une réalité. Tandis que dans la Palestine, réellement, l'élément fondateur, c'est les réfugiés. C'est comment ils sont devenus réfugiés, 1948. Et donc, je pense que cet élan, ce désir, cette obsession, il faut vous rappeler que lorsque l'OLP a commencé, lorsque les premiers mouvements de résistance ont commencé, le Fatah, le Front démocratique, le Front populaire, le mot d'ordre, c'était « Al-Aouda, Al-Aouda, Al-Aouda ». Dans les manifestations, on ne criait pas « Palestine vaincra », on criait « Al-Aouda », ça veut dire « le retour ». Parce qu'il n'y avait même pas encore l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 67. Je parle des années 60, 62, 64, 65. Toutes ces années-là, la revendication majeure, c'est le retour. Parce que les Palestiniens vivent leur traumatisme fondateur comme l'expulsion de leur pays. Donc le retour a beaucoup de sens. C'est pour ça que le retour de Yasser Arafat et de l'OLP en 93, pendant les accords d'Oslo, avait tellement de sens. Il est évident qu'il n'est pas retourné dans un État indépendant. Ils le savaient et tous les Palestiniens le savaient. Mais le fait qu'ils retournent, même avec quelques milliers de combattants, pour la première fois, ramener les choses à leur acte fondateur. Et donc, je pense que c'est très fort comme revendication. C'est pour ça d'ailleurs que personne ne peut se permettre de dire qu'il est contre le droit de retour. Maintenant, je crois que tous les réfugiés, et en particulier les responsables politiques, savent qu'ils ne pourront pas tous revenir, il est évident, dans l'État israélien. Je ne suis même pas sûre qu'ils veuillent revenir dans l'État israélien, parce qu'il faut se rappeler que leurs villages ont été toujours détruits. 430 villages d'où venaient ces réfugiés ont été rasés. Ils ont laissé lieu à ce qui sont devenus les villes israéliennes. Mais beaucoup, je pense, aimeront revenir dans l'État palestinien. Et certains aimeront revenir, même s'ils ne retrouveront pas leur village, mais dans ce qui est devenu Israël d'aujourd'hui. Et je pense que c'est très important, en tout cas pour les vieux en particulier, de pouvoir le faire. C'est pour ça que dans les négociations, nous avons demandé en particulier que ce droit de retour à l'intérieur d'Israël, qui sera limité à un nombre acceptant l'autorité israélienne, soit pris parmi les réfugiés du Liban. Parce que la majorité des réfugiés du Liban viennent du nord d'Israël aujourd'hui, donc du nord de la Palestine de 1948. Les réfugiés qui sont en Jordanie sont en majorité plutôt de Cisjordanie, beaucoup d'entre eux ont été expulsés en 67, mais en Syrie aussi, il y a énormément de réfugiés de ce qui est aujourd'hui Israël. Je pense que ça, c'est très important que certains d'entre eux puissent rentrer. En France, on fait de cette histoire une histoire absolument catastrophique et impossible à résoudre. Mais ce qui s'est passé à Tabac en janvier 2001 pendant les négociations, c'est que Yossi Beylin et Nabil Chaz, qui ont négocié le dossier des réfugiés, se sont mis d'accord réellement sur un texte où nous acceptons de limiter le nombre qui reviendra à un certain nombre. Et M. Beylin, la partie israélienne, a accepté de reconnaître la résolution 194. Donc vous voyez que ce n'est pas le sujet nécessairement le plus difficile à résoudre. Mais il est sûrement essentiel pour une vraie réconciliation.
Tous les médias, aussi en France, sont focalisés sur les retraits de Gaza. Il est évident que Tel Aviv poursuit sa politique d'annexion systématique de grignotage dans la Cisjordanie. Ma question est, quels sont les moyens réels dont vous, en tant qu'autorité nationale palestinienne, disposez pour faire face à cette politique de colonisation? Mais plus exactement, est-ce que vous croyez qu'il existe aujourd'hui une communauté internationale capable réellement d'aider les Palestiniens? Et est-ce que vous croyez que l'Union européenne peut représenter un rôle plus concret?
Sûrement. Je dirais que l'Union européenne peut avoir une politique plus concrète de respect du droit, parce que vous avez raison, l'Union européenne dit depuis maintenant 38 ans que les colonies sont illégales, qu'elles sont illégitimes, qu'elles sont un obstacle à la paix et qu'elles ne doivent pas exister. Et tous les ans, le gouvernement israélien construit de nouvelles colonies. Vous venez de parler des nouvelles colonies les plus dures, ça veut dire celles qui sont à Jérusalem-Est, et qui vont, lorsqu'elles vont être élargies, diviser la Cisjordanie en deux morceaux, nord et sud. Et puisque Israël a annexé Jérusalem et les colonies à l'est de Jérusalem, il n'y aura plus moyen de passer du nord au sud ni du sud au nord. Donc il n'y aura plus d'État palestinien. C'est vraiment pour ça qu'Israël est en train d'élargir les colonies de Jérusalem, pour empêcher la création d'un État palestinien. Alors bien sûr, ce qui manque à la communauté internationale, c'est une volonté politique. Parce que dans la tête des Européens, Israël est encore uniquement l'État des victimes du génocide. Et la culpabilité de l'Europe à l'égard du génocide est telle qu'on n'arrive pas à traiter avec l'État israélien comme un État normal. Or, il n'y a pas de raison de le traiter comme un cas exceptionnel, parce que sinon, on revient à l'idée que le peuple juif est différent des autres. Étant donné qu'aujourd'hui, l'État israélien est un État constitué, indépendant, souverain, qu'il est en guerre, malheureusement, avec la Syrie, il est en guerre avec les Palestiniens, il a déjà fait la paix avec l'Égypte et la Jordanie. Aujourd'hui, ou bien il respecte les règles internationales du droit, ou bien il est en train aussi de vouer son peuple à la guerre éternelle.
C'est ce qui vous a fait dire un jour que vous étiez beaucoup plus sévère finalement à l'égard de l'autorité internationale et de ses carences qu'à l'égard d'Israël.
Oui, tout à fait. À la rigueur, vous savez, Israël est un pays qui s'est construit un ghetto mental. C'est un peuple qui a eu très peur, parce qu'il a vécu un génocide, et que ce génocide n'a que 50 ans d'âge, et qu'on peut comprendre qu'ils aient peur. Et comme ils sont en état de guerre, la peur nourrit la peur. Et on peut dire qu'un peuple qui a vécu un génocide, qui est un peuple en guerre, peut faire des erreurs, peut être aveuglé, peut se retrouver dans un ghetto mental. Mais quelle est l'excuse de la communauté internationale? Elle n'a aucune excuse. Et donc, bien sûr, je suis plus sévère, en particulier sur les États, mais je suis même sévère sur les opinions publiques qui devraient pousser les États à avoir une règle pour tous, une loi pour tous, parce que lorsqu'on dit qu'on est dans un monde mondialisé, il est évident que si on va utiliser deux poids, deux mesures, on ouvre la porte au chaos, à la violence, et tout devient légitime. Les gens vous diront, puisque nous ne sommes pas protégés par le droit international, que certains sont protégés et pas d'autres, donc nous avons le droit d'utiliser tous les moyens pour nous défendre tout seuls. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il doit y avoir un débat très sérieux dans la communauté internationale, autant les opinions publiques que les gouvernements. nous avons gagné beaucoup sur le plan de notre visibilité. Personne aujourd'hui ne dit qu'il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas de peuple palestinien. Il y a 38 ans, Mme Golda Meir dit qu'il n'y a pas de Palestiniens, il n'existe pas. Donc c'est vrai qu'on a fait du progrès, mais il faudrait maintenant, sur le terrain aussi, que ce progrès se transforme en réalisation et en particulier une fin de l'occupation militaire.
Aligre FM 93.1, hommage à Leïla Shahid. Jérusalem par Mahmoud Darwish. Texte dit par Didier Sandre le 7 octobre 2007 à l'Odéon Théâtre de l'Europe.
À Jérusalem. À Jérusalem, je veux dire, à l'intérieur des vieux remparts, je marche d'un temps vers un autre, sans un souvenir qui m'oriente. Les prophètes là-bas se partagent l'histoire du sacré. Ils montent aux cieux et reviennent moins abattus et moins tristes, car l'amour et la paix sont saints et ils viendront à la ville. Je descends une pente marmonnant « Comment les conteurs ne s'accordent-ils pas sur les paroles de la lumière dans une pierre ?» Les guerres parlent-elles d'une pierre enfouie ? Je marche dans mon sommeil. Yeux grands ouverts dans mon songe, je ne vois personne derrière moi, personne devant. Toute cette lumière m'appartient. Je marche, je marche. Je m'allège, je vole et me transfigure. Les mots poussent comme l'herbe dans la bouche prophétique d'Isaïe. Croyez pour être sauvés. Je marche comme si j'étais un autre que moi. Ma plaie est une rose blanche évangélique. Mes mains sont pareilles à deux colombes sur la croix qui tourne dans le ciel et porte la terre. Je ne marche pas. Je vole et me transfigure. Pas de lieu, pas de temps. Qui suis-je donc ? Je ne suis pas moi en ce lieu de l'ascension. Mais je me dis, seul le prophète Muhammad parlait l'arabe littéraire. Et après ? Après, une soldate me crie soudain « Encore toi ? Ne t'ai-je pas tué ?» Je dis « Tu m'as tué, mais comme toi, j'ai oublié de mourir. »
Vous venez d'écouter la rediffusion d'un entretien accordé par Leïla Shahid à Nadia Itayeb et Lorenzo Trompetta en 2005 sur Aligre FM 93.1. La disparition de Leïla Shahid est une perte terrible pour les Palestiniens et pour l'humanité tout entière. Elle laisse orphelins tous ceux qui luttent pour la justice et l'application du droit international. Restent les souvenirs, les traces filmées et écrites de ces innombrables interventions télévisées et radiophoniques qui continueront à faire d'elle une source d'inspiration et à faire entendre sa voix. Merci à Philippe Donnefort et Enrico Mastro Giovanni pour la réalisation. Sachez également qu'un hommage est organisé par l'IREMO, Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes Moyen-Orient, ce soir, en ligne et en présentiel, 1 rue Marcel Duchamp, dans le 13e arrondissement. Malheureusement, les places sont limitées et tout est déjà complet, mais il est encore possible de s'inscrire en ligne. À bientôt sur Aligre FM 93.1.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.